Bonjour à tous. Donc ce matin, c'est la rentrée. En effet, notre Église connaît elle aussi cette grande agitation qu'est la rentrée. Et après tout, c'est compréhensible. Durant les deux derniers mois, nous avons été plus ou moins séparés. Nous l'avons vu ce matin, certains n'étaient même pas là. Nous avons été séparés, répartis sur différents lieux, à des moments différents. Mais à présent, nous nous retrouvons, et nous nous retrouvons pour une nouvelle étape. Et ce petit départ est l'occasion rêvée pour rappeler notre projet pour cette année, notre projet d'Église. Vous en souvenez-vous ? Il est inscrit sur le bulletin de l'Église tous les mois, ensemble dans de beaux projets. Ensemble dans de beaux projets. La formulation est ce qu'elle est. Elle renvoie surtout à quatre projets que nous nous sommes choisis en Église. Le soutien à Laurent Descaux durant ses études théologiques. Le soutien à la recherche pionnière de John et Sarah Perkins au sud de Clermont-Ferrand. L'organisation du parcours Alpha et la recherche de locaux plus adaptés à notre Église. Voilà les quatre projets sur lesquels nous souhaitons travailler ensemble. Est-ce là notre vision pour l'Église ? Le plan de Dieu se réduit-il à ces quatre projets, aussi beaux les trouvions-nous ? Soyons clairs, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la Bible, laisse un grand degré de liberté. Là où certains attendent une religion, des lois, des commandements, des exercices spirituels à suivre, Jésus a laissé un grand commandement et une grande mission. Je vous propose de lire ces deux textes qui doivent structurer notre vie personnelle et notre vie d'Église. Ils se trouvent tous les deux dans l'Évangile selon Matthieu. Le premier, le commandement, se trouve au chapitre 22 de Matthieu, les versets 37 à 40. Il s'agit d'une réponse que Jésus donne aux religieux qui interrogent pour savoir ce qu'ils pensent être le commandement le plus important. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici celui qui vient en second rang et qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Un commandement en deux parties, donc. Tu aimeras le Seigneur complètement et ton prochain comme toi-même. Le second texte, c'est la mission que Jésus nous donne. On la retrouve en Matthieu 28, versets 19 et 20. Ces paroles sont les dernières que Jésus adresse à ses disciples avant de retourner au ciel et quitter définitivement cette terre. Matthieu 28, les versets 19 et 20. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà le programme. Nous cherchions une vision avant d'avoir fait le tour de celle-ci, ce commandement d'amour et cette mission d'évangélisation. Il risque de se passer un certain temps. Prenons quelques instants pour entrer dans le détail. Examinons d'abord le grand commandement. Ce qui frappe, c'est que Jésus ne cite pas un, mais deux commandements. Et dans ses explications, l'un ne va pas sans l'autre. Le second est semblable au premier. Ainsi, on ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain, c'est-à-dire l'autre, notre voisin, celui qu'on est amené à croiser tous les jours ou exceptionnellement. Effectivement, on peut se demander comment aimer Dieu sans aimer ce qu'il a fait, son œuvre, sa création. Et au sein de sa création, comment ne pas aimer l'homme qu'il a fait à son image et qu'il a placé au-dessus de toute chose. Mais plus directement, la Bible nous enseigne qu'aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Et quand on y regarde de plus près, beaucoup des commandements contenus dans la Bible concernent nos relations avec nos prochains. Un exemple, dans les 10 commandements, le texte qui est à la base de la loi de l'Ancien Testament, nombreux sont les commandements qui sont destinés à régler ma relation avec mon prochain. Et quand on regarde dans le reste de la loi, nombreuses sont les règles et précisions qui continuent à nous enseigner sur la façon dont je dois respecter et aimer mon prochain. Si on ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain, l'inverse est vrai aussi. Il est incomplet d'aimer son prochain, d'aimer l'homme, sans aimer Dieu. En effet, l'homme reste plein de ses défauts, capable de cruauté, de violence, générateur d'injustice et de catastrophes. Il retombe toujours dans les mêmes travers. Aimer cet homme, limité, sans discerner le Créateur et son plan parfait, celui que nous révèle la Bible, c'est faire fausse route. Ainsi, aimer son prochain trouve son sens quand on aime Dieu. Et aimer Dieu ne peut se faire sans aimer son prochain. Jésus nous dit que toute la loi est contenue dans ces deux commandements. Mais à tous ceux qui pensaient pouvoir se débarrasser de la Bible pour ne garder que ces deux directives, Jésus rappelle combien elles restent utiles. En effet, la Bible développe, explique, éclaircit ces deux commandements. Et à l'inverse, tout ce qui y est doit être éclairé par ce double commandement d'amour, amour pour Dieu et amour pour mon prochain. En plus de ce grand commandement, Jésus nous a laissé une grande mission. Cette mission, c'est susciter d'autres croyants et transmettre l'enseignement du Maître. Si on y réfléchit, cette mission est dans la continuité du grand commandement. En effet, celui qui aime Dieu va vouloir transmettre son amour. Il parlera alors avec passion partout où il passe. De même, celui qui aime son prochain ne peut lui cacher la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Ainsi, pour celui qui respecte le commandement de Dieu, il est normal de vouloir transmettre sa foi. Ce qui peut surprendre, c'est la cible désignée par Jésus pour l'évangélisation. Tous les peuples, le monde entier est visé. Ça fait beaucoup. Du coup, nous avons le choix, l'embarras du choix, devrais-je dire. Nous pouvons commencer par nos voisins ou partir de l'autre côté de la terre. Nous sommes toujours dans le cadre fixé par le Maître. La très grande liberté dont nous jouissons est confortable. Et l'ampleur de la tâche à accomplir peut aussi nous paralyser. D'autant que Jésus le dit lui-même, la moisson est abondante, mais il ajoute, les ouvriers sont peu nombreux. Mais remarquons que c'est à ce moment-là, lors de l'envoi en mission, que Jésus ajoute, et ce n'est pas un hasard s'il le dit à ce moment-là, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Que sa présence nous rassure. Loin des grands projets d'Église, la première communauté semble avoir vécu dans une certaine simplicité de vision. C'est ce que nous retrouvons dans le chapitre 2 du livre des Actes, Actes chapitre 2, au verset 42 à 47. Il s'agit du compte-rendu d'activité de la première communauté chrétienne, celle qui s'est formée à Jérusalem après la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit. Acte 2, verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Curieusement, alors que l'Église est en pleine croissance, puisque chaque jour de nouvelles personnes s'ajoutent à la communauté, ce ne sont pas les activités d'évangélisation qui sont mises en avant. Non, ces premiers chrétiens s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, et à prier ensemble. Quatre piliers, quatre priorités qui nous sont rapportées. En fait, ils suivaient le grand commandement de Jésus. Guidés par l'amour qu'ils ont pour Dieu, eh bien, ils ont envie de mieux le connaître et ils ont soif d'écouter l'enseignement des apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus. Ceux qui l'ont vu à lèvres et qui ont reçu son enseignement. Nous l'avons dit, la totalité de l'enseignement, la totalité de la parole de Dieu est utile. Connaître Dieu, ce n'est pas se limiter à quelques phrases clés, mais c'est méditer, revenir sur les différentes paroles avec une compréhension toujours approfondie. Et c'est ce que font ces croyants, avec faim et avec persévérance. Ensuite, ils vivent dans la communion fraternelle. Pour le lecteur du grec, communier, c'est avoir en commun, partager, ou participer à. Le mot décrit une union intime, comme dans un mariage. Ces nouveaux convertis, alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques jours, étonnent tant leur intimité est profonde. Si profonde qu'ils vivent ensemble et partagent ce qu'ils possèdent. Ils sont motivés par un amour profond pour leurs frères et sœurs, leurs proches prochains. Cet amour commandé par Jésus, ils le vivent donc de manière concrète. Ils se rappellent également cet amour à travers la rupture du pain, c'est-à-dire la Sainte Cène, qu'ils prennent régulièrement. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Laurent et Anna Desco nous rappelaient que le repas du Seigneur que nous prenons, en plus de nous rappeler le sacrifice dont nous bénéficions personnellement, nous rappelle aussi que Dieu nous a sauvés pour être ensemble et pour faire de nous un corps uni et aimant. Quatrième habitude, les croyants s'unissent et se tournent vers leur Père dans la prière pour exprimer leur amour. Cette prière, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être prière d'intercession, où les croyants s'unissent et se tournent vers leur Père pour faire part de combien ils ont besoin de lui. Elle peut aussi être prière de louange, où les croyants expriment ensemble l'amour qu'ils partagent. Mais c'est une prière permanente, comme est permanente la relation qu'ils entretiennent avec Dieu. Nous le notions, ce texte ne parle pas de leurs efforts d'évangélisation. Et pourtant, tous les jours, de nouvelles personnes rejoignent la communauté. À croire qu'avec un tel amour pour Dieu, l'amour qui se transforme aussi en amour du prochain, eh bien, avec cet amour, parler autour d'eux de leur foi était naturel. Et pourquoi nous ne vivons-nous pas simplement ceci aujourd'hui? Pourquoi dépensons-nous de l'énergie à monter des projets d'église? Nous devons faire attention avant de tirer des conclusions rapides. La description des débuts de la communauté chrétienne correspond à un temps particulier de l'histoire. Le Saint-Esprit débutait son travail sur terre. C'était en quelque sorte une révolution spirituelle, bouillonnante de puissance. Mais la première communauté a rapidement quitté cette seule spontanéité pour organiser son fonctionnement et son action. Quand on lit la suite du livre des Actes, on voit la désignation de diacres pour des tâches dédiées, on voit des débats théologiques, on voit aussi l'organisation pour l'envoi de missionnaires. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'Esprit n'a pas perdu de sa puissance entre-temps. Il agit, et il agit aujourd'hui encore de façon extraordinaire. Nous entendons parler des réveils qui ont lieu de par le monde, comme ils ont lieu par le passé, en Europe, en France, près de chez nous. Nous le voyons agir jour après jour autour de nous. Mais sans doute, Dieu a-t-il voulu, dans ces temps de début de l'Église, intervenir de façon déterminante pour lancer et affermir son Église. Et regardons comment nous, parents humains, agissons. Alors que nos enfants sont jeunes, nous sommes prêts à leur apporter une aide plus grande. Ainsi, nous portons les plus jeunes qui ne savent pas marcher ou se fatiguent vite. Mais lorsqu'ils grandissent, nous les poussons à marcher, nous les poussons à prendre des initiatives, Je crois qu'il en est de même pour Dieu. Lorsqu'il voit ses enfants utiliser les dons qu'il a placés en eux, qu'il les voit les utiliser avec talent, avec imagination, eh bien, il se réjouit de les voir grandir. Nous l'avons rappelé, la moisson est grande alors. Par où commencer ? La Bible nous parle, c'est en Éphésiens, d'œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Je crois que ce sont ces œuvres préparées par Dieu que nous avons voulu discerner par la prière et la réflexion pour monter notre projet d'église pour cette année. Nous avons pris en compte nos capacités, nos limites, notre environnement aussi. C'est sur ces œuvres préparées d'avance par le Seigneur que nous souhaitons nous concentrer. Ce sont elles que nous avons appelées nos beaux projets. Peut-être pouvons-nous prendre un moment pour les rappeler. Le premier de ces projets, je le disais plus tôt, c'est le soutien à Laurent Descaux durant ses études de théologie. Laurent a reçu de Dieu la conviction de devenir pasteur et suit dans ce but des études de théologie à Barcelone. Notre église, dans laquelle il s'est converti et a débuté la foi chrétienne, a reconnu son appel et a décidé de le soutenir financièrement durant cette période. Ce projet est pour moi l'illustration parfaite de quelque chose qui peut être préparé à l'avance par Dieu. J'ai l'impression que dans ce projet, notre Église se mouille peu. C'est Laurent qui est en première ligne. Nous, il nous est demandé eh bien, de tenir notre place à l'arrière pour le soutenir. Le second projet, c'est le soutien à la recherche pionnière de John et Sarah Perkins au sud de Clermont-Ferrand. Recherche pionnière autour d'Issoire, de Brioude, enfin, le sud. Là encore, on peut reconnaître une œuvre préparée d'avance par le Seigneur. Soutenus par leur mission, John et Sarah ont reçu leur conviction et ils sont venus nous présenter leur projet. Nous n'avons plus qu'à reconnaître ce projet et tenir notre place, une place d'accueil pour eux et de soutien dans la prière. Mais ça ne s'arrête pas là, et nous aurons aussi à participer suivant nos dons. Soyez sans crainte lorsqu'ils vous le solliciteront. Ce sera pour des tâches pour lesquelles vous êtes équipés. Pour le troisième projet, il va falloir se retrousser les manches puisque nous voulons organiser un parcours alpha. Là aussi, quelque part, c'est préparé d'avance puisqu'il s'agit de suivre un parcours balisé, documenté, éprouvé. Mais pour le mener, nous allons devoir participer, monter en première ligne. Pour plusieurs, il va nous falloir nous rendre disponibles, prêts à servir pendant plusieurs semaines. Et pour tous, il va falloir nous rendre concernés. Concernés et porter le projet dans la prière, mais aussi concernés et ouvrir les yeux à la recherche de qui inviter. Mais n'oublions pas que Jésus, qui nous a envoyé partager notre foi, est avec nous et qu'il saura toucher ceux qu'il a préparés d'avance à accueillir son message. J'ai parlé de quatre projets, le quatrième est un peu plus flou. Il s'agit de la recherche de locaux plus adaptés et les moins clairs. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous cherchons. Nous ne savons pas ce qu'il est possible d'obtenir. Mais nous partons du constat qu'au niveau des salles annexes, nous nous retrouvons régulièrement à l'étroit et que notre salle de culte, aujourd'hui remplie alors que tous ne sont pas rentrés, et bien que notre salle du culte est régulièrement trop petite. Il est très plaisant de voir notre salle remplie, mais la question se pose, pouvons-nous accueillir ce que le Seigneur ajoutera à notre communauté? Aussi, en parallèle à nos autres projets, car il ne s'agit pas de tout mettre en attente, en attendant d'être mieux installé, en parallèle, nous voulons nous mettre à la recherche de ce que Dieu veut pour accueillir nos rassemblements et de ce qu'il, n'en doutons pas, a préparé d'avance pour nous. Voici donc les quatre projets que nous nourrissons en Église. Ou pour reparler de cette moisson qui est grande, voici le coin du champ de moisson où nous souhaitons travailler. N'oublions pas ces projets. Au contraire, gardons-les dans nos pensées, dans nos prières, et tenons-nous prêts à y participer. Il est temps de conclure. Alors, que dire au début de cette nouvelle étape qu'est la rentrée? Nous nous sommes rappelés nos projets. Je crois qu'ils sont beaux. Je crois que le Seigneur sera glorifié à travers eux. Je crois qu'ils sont un coin honorable de la moisson où nous pouvons travailler ensemble de bon cœur. Mais l'accomplissement de ces projets ne saurait être un objectif ultime. N'oublions pas les fondamentaux. En effet, le grand commandement d'amour que Jésus nous a laissé, amour pour Dieu, amour pour notre prochain, ce commandement doit toujours rester devant nous. Et il doit se traduire concrètement par la faim pour l'étude de sa parole, par l'union intime qui doit nous lier, par le souvenir à entretenir que celui qui nous a rassemblés, c'est Dieu, et par la prière par laquelle nous exprimons notre unité. Sans cet amour, nos projets sonneront creux. C'est cet amour qui nous tournera vers l'extérieur pour partager sa parole. Alors nous pourrons participer à la grande mission de faire des disciples dans le monde entier. Alors, nous pourrons participer à la grande moisson, sachant que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.